Vous êtes branchés sur Radio Tonique.
Et il est pile 17h.
Il est 17h sur Tonique et du lundi au vendredi à 17h, c'est l'Afterwork. Un Afterwork qui débute aujourd'hui par une partie très 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 sérieuse puisque nous avons Grégoire Barbet qui reçoit ce soir Caroline Cast, conseillère administrative en ville d'Aunay et ancienne présidente du Parti Socialiste Genevois. Je vous laisse avec eux.
Bonsoir Caroline Cast.
Bonsoir.
Votre parti, le Parti Socialiste Genevois, a récemment refusé en Assemblée Générale la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'ABS, le volet Genevois, sur lequel les Genevois voteront le 19 mai. Vous êtes une des fers de lance de l'opposition à ce projet. Vous devez donc être contente.
Alors oui, effectivement, je suis contente de la position de mon parti. Mais il faut savoir que je suis, vous avez dit, une des fers de lance, c'est vrai. Mais je suis de loin pas la seule, puisque finalement, il y a une majorité des députés qui, eux, étaient en désaccord également avec ce projet.
11 sur 17, hein, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Mais au final, sur la réforme en elle-même, quels sont les points qui ne vous conviennent pas du tout, pour lesquels vous devez absolument rejeter cette réforme?
Alors, c'est le principe même de la réforme, c'est une baisse d'impôts. Alors, a priori, on peut se dire, chouette, une baisse d'impôts. Le problème qu'il y a, c'est que c'est une baisse d'impôts, donc ça va avoir des atteintes fortes sur le budget des collectivités publiques.
Oui, alors,
le canton.
Qu'on rappelle pour les auditrices et les auditeurs, c'est une baisse d'impôts pour les entreprises de petite et moyenne taille et une hausse d'impôts pour les entreprises qui aujourd'hui bénéficient d'un statut spécial et qui ne pourront plus bénéficier de ce statut spécial parce que l'OCDE a demandé à la Suisse d'abolir ce système-là.
Oui, tout à fait.
Oui.
Donc c'est pas une question de la taille de l'entreprise, mais c'est une question finalement de la nationalité,
oui,
si
plutôt,
on veut,
ouais,
de l'entreprise.
Effectivement, ouais.
Puisque c'est uniquement les entreprises
étrangères
ouais. Ou multinationales qui bénéficiaient de ces statuts spéciaux qui doivent être abolis.
Mais donc, pour une part de ces entreprises, c'est quand même une hausse d'impôts.
Oui, pour celle-ci particulièrement, c'est une hausse d'impôts. Pour la grande majorité des entreprises locales, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs, ça sera une baisse d'impôts, sauf, je dirais, pour les toutes petites entreprises qui ne font pas de bénéfices, parce que c'est un impôt sur le bénéfice. Donc, celles qui ne font quasiment pas de bénéfices ou disons, très peu, pour elles, c'est ni une hausse ni une baisse. En fait, ça ne change pas grand-chose à leur situation.
Mais vous, vous demandez quoi concrètement? Qu'il n'y ait pas de baisse d'impôt tout court?
Non, on demande que le niveau d'impôt fixé, en égalisant celles qui payent aujourd'hui pas assez au bénéfice de ces statuts et celles qui sont locales et qui payent aujourd'hui 24% d'impôt, on demande que ce niveau, qui doit être un entre-deux, évidemment, soit équilibré et permette de maintenir les prestations à la population. Parce qu'en fait, l'impôt, ça sert à quoi? Ça sert à payer les écoles, ça sert à payer les crèches, ça sert à payer le social, ça sert à payer les routes, l'éclairage public, enfin, toute une série de choses qui sont des prestations qui sont absolument indispensables à tout le monde et qui ne pourraient plus être forcément financées si cette baisse d'impôt est trop forte.
Mais ça, c'est donc... Si je résume, en fait, finalement, il y a le discours de la gauche qui est le vôtre, celui que vous venez de tenir, et puis la droite qui dit non, mais attendez, si on baisse le taux, enfin, si on augmente le taux trop haut, les entreprises vont partir, donc les pertes fiscales qui sont aujourd'hui estimées par le Conseil d'État seront encore plus grandes, et du coup, les prestations sociales que vous voulez financer avec l'impôt, eh ben, il y en aura moins, justement. Donc, quelle est la bonne part?
Alors, c'est effectivement le discours de la droite, et puis de savoir finalement. Où est ce point d'équilibre? Eh bien, chacun le voit à son niveau de risque, de chance et d'opportunité. Nous, à gauche, on considère que la baisse d'impôts qui est aujourd'hui proposée avec ce taux de 13,99, elle va avoir trop d'impact sur les prestations publiques pour que l'équilibre soit là.
Donc, si je résume, c'est de l'ordre de 176 millions de pertes fiscales pour le canton, 43 millions pour les communes.
C'est un petit peu plus que ça. Ça, en fait, c'est la première année parce qu'il y a un système dégressif. Mais globalement, une fois que la réforme aura complètement déployé ses effets, c'est 380 millions de pertes pour le canton et à peu près 90 millions de pertes pour les communes.
Oui, mais il y a aussi des compensations sociales que la gauche a obtenues dans le cadre d'un compromis au Grand Conseil.
Alors, il y en a
notamment, si je résume pour les auditrices et les auditeurs, c'est un contre-projet au, à votre initiative du Parti socialiste pour plafonner les primes maladie à 10% du revenu du ménage. Ce contre-projet permettrait de passer d'à peu près 30 000 personnes subventionnées à Genève aujourd'hui à près de 120 000, ce qui représente 176 millions environ de francs en plus.
C'est tout à fait exact, avec une petite bémol, c'est que ce n'est pas une contrepartie. Parce que les deux projets ne sont pas liés. Mmh. C'est-à-dire que les gens pourraient très bien voter oui à l'un et non à l'autre sans que l'équilibre global soit remis en cause. C'est-à-dire que les gens peuvent très bien voter oui à la baisse d'impôts
et non au
contre-projet. Ouais. Ou à l'inverse, quelqu'un qui veut le contre-projet mais qui ne veut pas la baisse d'impôts peut très bien voter oui à l'un et non à l'autre. Donc c'est faux de parler de contrepartie. Puisqu'il n'y a pas de lien intrinsèque entre ces deux objets.
Mais donc, sur ce point précis, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si la droite avait lié les deux projets, là, peut-être, vous auriez pu entrer en matière sur le projet ?
En tout cas, on aurait eu un regard différent sur la question, puisqu'on aurait effectivement la garantie que si on accepte la baisse d'impôts, on a une meilleure protection de la population par rapport aux hausses des primes d'assurance maladie. Donc, ça aurait été effectivement quelque chose qui aurait pu être lié, qu'aurait pu en tout cas véritablement changer notre regard sur la réforme, puisque là, on aurait eu un progrès pour les gens garanti. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, ces deux projets n'ont aucun lien juridique. Et donc, on n'a aucune garantie d'avoir l'un et l'autre.
Mais donc, au final, le changement... Enfin, ce qui s'est passé avec la droite estime que vous trahissez une parole donnée, qui était celle d'engager, enfin de défendre cette réforme parce qu'elle est le fruit d'un compromis. Finalement, vous avez le sentiment que durant ce compromis, rien n'a été fait pour vous garder dans l'équipe, en fait.
Oui, c'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est une des problématiques qu'on a eues lors de la première Assemblée générale qui déterminait si les députés allaient voter ou pas. Et lors de cette Assemblée générale, il faut savoir que la droite, et notamment le Conseil d'État, voulait vraiment que tout se fasse très très vite. Et c'était un choix politique de voter sur le volet cantonal en même temps que le volet fédéral. Et comme le volet fédéral était soumis au vote le 19 mai, eh bien, il fallait boucler finalement le volet cantonal très très vite. Et c'est, à mon avis, une des grandes faiblesses du processus qui a amené à ce résultat, parce que en voulant aller très très vite, eh bien effectivement, on a escamoté tout un champ des négociations qui aurait pu permettre de garder ce compromis.
Mais ça, Caroline Casse, c'est évidemment le discours du Parti socialiste. Mais d'un autre côté, le canton de Vaud, lui, a déjà une réforme qui est sous toi et qui est appliquée depuis le début de cette année, d'un volet cantonal de la réforme fiscale au niveau fédéral. Donc, il y a quand même un petit peu une urgence. C'est-à-dire que d'un côté, on a un canton qui n'est pas très loin d'ici, qui bénéficie à peu près des mêmes avantages, c'est-à-dire qu'il est à côté du lac de Genève, que le temps y est aussi beau qu'ici. Quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une urgence aussi pour le Conseil d'État qui doit proposer un projet rapidement pour pouvoir s'aligner et ne pas se retrouver avec une concurrence fiscale intercantonale qui est quand même violente, hein, parce que là, on passe de canton de Genève, pour l'instant, les petites entreprises sont encore imposées 24%.
On aurait très bien pu envisager de faire la même date d'entrée en vigueur, c'est-à-dire le 1er janvier 2020, en votant là-dessus au mois de septembre ou au mois de novembre.
Mais en termes de lisibilité aussi pour les entreprises.
Mais comment... pour les entreprises, justement, je pense que là, aujourd'hui, la lisibilité, elle est bien moindre, parce que finalement, on ne connaît pas encore le cadrage fédéral, on nous demande de nous prononcer sur un cadrage cantonal, mais... Je veux dire, si demain le cadrage fédéral il tombe, parce qu'on soumet, on vote aussi, hein, donc c'est pas sûr, RIE 3 s'était pas passé. Donc si demain il y a aussi un refus de cette réforme au niveau fédéral, les conditions cadres de la négociation, les conditions cadres d'un compromis tombent.
Et je rappelle que votre parti à Genève refuse aussi le volet fédéral. Contrairement à votre parti suisse, à la section suisse, dont le président Christian Levra estime que pour lui, ce compromis, donc je rappelle qu'il lie aussi 2 milliards de plus chaque année dans le fonds de l'AVS, est un projet que la gauche ne peut pas refuser. Vous lui répondez quoi ?
Qu'il se trompe, à mon avis, en disant qu'on ne peut obtenir un renforcement de l'AVS que par cette voie-là. Parce qu'en fait, c'est le discours du Parti socialiste. Depuis très longtemps, le Parti socialiste défend un renforcement de l'AVS, du premier pilier. C'est la raison pour laquelle on avait déposé des initiatives avec les syndicats pour renforcer l'AVS. Aujourd'hui, le Parti socialiste suisse croit que ce renforcement de l'AVS, il n'arrivera à l'avoir que s'il lâche sur la fiscalité des entreprises. Et au niveau fédéral, alors là, contrairement au niveau cantonal, c'est vraiment lié. C'est-à-dire que si oui. la fiscalité des entreprises est refusée, le renforcement de l'AVS tombe également.
C'est ce qu'on appelle un package. Et d'ailleurs, il y a des voix, des opposants, même qui sont plutôt favorables à la fiscalité des entreprises, qui aujourd'hui disent oui, non, mais on ne peut pas lier ces deux projets. Vous aussi, vous trouvez que ce n'est pas bien d'avoir fait ce lien ?
Je ne suis pas opposée au lien en soi, mais je considère que l'équilibre n'y est pas dans l'histoire, puisque... on va finalement avoir une baisse substantielle de l'imposition des entreprises partout en Suisse, en gros. Et puis, par ailleurs, on renforce...
Surtout en Suisse romande, plutôt. Parce que les cantons alémaniques avaient déjà des taux d'imposition plus bas.
Oui, ou alors ils vont moins le bouger avec la réforme, de toute manière. Mais par ailleurs, on finance ces milliards de plus par notamment par une ponction... sur les patrons. Alors là, on peut se dire, c'est cohérent, les entreprises, finalement,
elles y gagnent,
donc, etc. Voilà. Donc là, c'est cohérent. Mais également sur les travailleurs. Mm-hmm. Et donc là, finalement, on considère que dans cet équilibre, on n'y est pas. Puisque, de nouveau, on a une baisse d'impôts d'un côté, et en contrepartie, on fait passer à la caisse, alors, certes, les employeurs, mais aussi les salariés. Les salariés, ils n'ont rien à gagner dans RFFA. Donc, encore une fois, ce financement supplémentaire de l'AVS, on aurait pu l'envisager comme une contrepartie, mais à ce moment-là, il aurait fallu qu'il n'y ait pas une égalité en fait, entre les deux parties, mais que peut-être le financement soit assuré uniquement par les employeurs qui, eux, auront une baisse d'impôts, donc qui sont dans l'équilibre.
Mais du coup, comment vous comprenez finalement la position de Christian Levrait et du PS Suisse, qui finalement se retrouve, d'après ce que je comprends, un peu en otage à accepter une réforme de la fiscalité des entreprises par nécessité, parce que d'un autre côté, il y a quand même quelque chose. L'AVS est un des impôts les plus sociaux en Suisse, si ce n'est le plus social. Quelque part, ils n'avaient pas le choix d'accepter cette réforme pour pouvoir proposer aux travailleurs qu'ils défendent vos électeurs. Ils n'avaient pas le choix d'accepter cette réforme.
Ils étaient un peu en otage. Je pense qu'ils avaient le choix, mais ils ont considéré que le progrès amené sur l'AVS valait d'avaler la couleuvre de la baisse de la fiscalité. C'est un arbitrage, ce n'est pas celui du Parti socialiste Genevois qui considère que l'équilibre n'y est pas et que, par conséquent, l'un ne compense pas correctement l'autre.
Mais le Parti socialiste Genevois, c'est la deuxième fois en peu de temps qu'il est en désaccord avec le PS suisse.
Oh, il y a eu, pas seulement la deuxième fois.
Non, ce n'est pas la deuxième fois, mais on parle quand même on parle aussi de la réforme des retraites, qui était soutenu par Alain Berset, conseiller fédéral socialiste, qui était soutenu par le Parti socialiste suisse. Le PS Genevois avait pris une position très claire contre ce projet. Il a été refusé en votation. Aujourd'hui, la réforme de la fiscalité des entreprises, qu'est-ce qui fait qu'en fait le Parti socialiste Genevois est si souvent à l'opposé de la partie fédérale ?
Écoutez, je crois que ce soit pour PV 2020, donc la réforme de la prévoyance professionnelle, ou bien pour RFFA, aucun socialiste, même suisse, ni même Christian Levrat, va vous dire que c'est absolument génial et puis que c'était le progrès du siècle et puis que...
Non, mais ils font bien comprendre que c'est de la... Comme le terme qu'on utilise souvent, c'est du pragmatisme, quoi. C'est qu'en gros...
C'est là que se situe la différence, effectivement. Comme tout compromis, donc le Parti socialiste est minoritaire, que ce soit d'ailleurs dans les cantons ou... Enfin, dans presque tous les cantons, ou que ce soit au Parlement fédéral.
Mais il est aussi au Conseil fédéral, il est au gouvernement.
Il est aussi au Conseil fédéral, c'est le système, il est aussi au Conseil d'État, c'est le système de démocratie de concordance qui veut ça. Et effectivement, on doit toujours jouer avec ce fait qu'on est minoritaire dans un Parlement, mais qu'on a quand même des représentants dans le gouvernement et que ceux-ci peuvent arriver parfois à être en porte-à-faux. Et je crois que c'est... Si on n'accepte pas cette dichotomie, à ce moment-là, il faut refuser d'envoyer des gens dans les gouvernements. Mais je ne crois pas du tout que ce soit le discours aujourd'hui, en tout cas pas d'une majorité des socialistes Genevois ou même des socialistes tout court.
Bien sûr.
Nous, on est conscients du fait que nos gouvernants doivent composer et chercher des compromis. Nos parlementaires peuvent avoir une position qui est plus dure et qui peut être de défendre plus, en tout cas plus frontalement, les idéaux de notre parti, les idées...
Justement, c'est ça. Programme. C'est quelque part, en fait, le Parti Socialiste Genevois est encore peut-être la dernière section en Suisse qui défend un idéal plus qu'une politique concrète de, où il faut, comme vous dites, avaler des couleuvres.
Je pense que le Parti Socialiste Genevois est une des sections cantonales, mais pas la seule, qui, effectivement, est peut-être assez critique sur... les couleuvres, la taille des couleuvres, ou peut-être digère moins bien les couleuvres que le Parlement fédéral. Mais c'est aussi logique, puisque finalement, nous sommes dans un rapport de force parlementaire plus proche de la moitié, et on a eu, du reste, historiquement à Genève, la majorité à gauche au Parlement aussi, alors qu'au niveau fédéral, ils sont bien plus minoritaires, même avec les alliés de gauche, hein, notamment les Verts, ils sont bien plus minoritaires dans le Parlement. Donc c'est clair que la marge de compromis, elle est beaucoup, si on veut être dans la majorité, il faut faire beaucoup plus de compromis quand on est très minoritaire que quand on est un petit peu minoritaire.
Très bien. Ben, on va prendre une petite pause musicale et on revient dans 5 minutes.
Ne bougez pas, dans un instant, retour à la musique.
Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis en compagnie de Caroline Cast, conseillère administrative à Aunay et ancienne présidente du Parti socialiste. Nous discutions à l'instant de la réforme de la fiscalité des entreprises et du financement de l'AVS. Il y a un autre sujet de votation important le 19 mai à Genève, c'est la proposition du Parti socialiste de proposer des primes plafonnées à hauteur de 10% du revenu du ménage. Ça, c'est un sujet que vous défendez ardemment. Vous étiez encore récemment sur des stands. Vous êtes vraiment à fond pour cette initiative? Vous pensez que c'est une très bonne idée?
Oui, je pense que c'est absolument indispensable par rapport à ce qui se passe au niveau des assurances maladie. Et je le dis bien plus aisément que ce soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral. Depuis longtemps, le Parti socialiste, au niveau fédéral, s'est profilé pour essayer de réformer le système. On a lancé plusieurs initiatives au niveau fédéral. Pour le moment, aucune n'a trouvé une majorité populaire. Mais là, on essaye avec une nouvelle, qui est donc celle de plafonner à 10% les primes d'assurance maladie. Et au niveau cantonal, on a déjà lancé cette initiative avec nos partenaires des Verts et d'Ensemble à Gauche. Donc, ce n'est pas juste une initiative du Parti socialiste, mais de l'entier de l'alternative. Et nous allons voter pour le volet Genevois le 19 mai là-dessus. Donc, pour être très clair, ce n'est pas des primes proportionnelles au revenu, c'est des primes plafonnées à 10% du revenu. Donc, en gros, pour les gens qui gagnent bien leur vie, il n'y aura pas d'augmentation des primes. Hein. C'est pas, ça, c'était une initiative qu'on avait portée une première fois au niveau suisse et qui n'avait pas trouvé de majorité. Ce n'est pas le système à la française, comme certains ont pu dire.
Mais si, actuellement, d'après ce que j'ai lu sur le site des défenseurs de ce projet, c'est environ 15,6% du revenu des ménages est consacré à l'assurance maladie aujourd'hui à Genève.
Ça dépend des ménages, évidemment.
Oui, bien sûr, c'est une moyenne. Ouais.
Oui, tout à fait.
Mais pour vous, ça va coûter combien, cette réforme?
Alors, la proposition qu'on fait, alors c'est difficile parce que nous, on n'a pas les chiffres. Oui. C'est le canton qui a les chiffres. Alors, lui, il dit 420 millions par an.
Oui.
Nous, on n'est pas complètement convaincus par ce chiffre-là. D'abord parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui sont à l'aide sociale ont déjà une prise en charge complète de leur prime d'assurance maladie, enfin complète sur la prime cantonale, mais sur une moyenne. Et donc, avec notre initiative, ces gens-là, ils auront toujours une grosse aide, mais elle leur est déjà versée au titre de l'aide sociale aujourd'hui, elle leur sera versée au titre de l'aide sur l'assurance maladie demain. Mais donc là, on ne sait pas quel est le transfert. Par ailleurs, il y a une réforme fédérale, et il faut quand même le dire, parce que c'est une bonne chose, qui dit que les primes des jeunes et des enfants doivent être couvertes par les subsides à hauteur respectivement de 80% de la prime, 50% de la prime. Et ça, ça devrait rentrer en vigueur dans tous les cantons à partir du 1er janvier 2021.
Donc ce qui veut dire que ça, c'est déjà un coût qui va être absorbé par cette réforme, c'est ça
oui,
que vous voulez dire?
Oui, parce que d'accord. Si cette initiative se met en place, eh bien évidemment que ces subsides-là seront déjà versés et donc le canton de Genève aura déjà adapté sa situation par rapport au droit fédéral.
Mais quand même, est-ce que votre position n'est pas un peu paradoxale? Parce que d'un côté, vous défendez le non au volet Genevois des RFFA parce que vous estimez que ça va coûter trop cher aux collectivités publiques. Et de l'autre, vous proposez un projet de hauteur de 400 millions. Alors ça, c'est les chiffres du Conseil d'État. Visiblement, vous n'êtes pas totalement d'accord. Mais disons que c'est quand même des montants importants. Vous les financez comment?
Ah ben, on les finance en baissant moins l'impôt des entreprises, justement. Pour nous, c'est vraiment une question de priorité.
Mais de toute façon, il y aura de l'argent qui va disparaître. Si la réforme est neutre, imaginons que la réforme soit neutre au niveau fiscal, cet argent-là de votre initiative, il faudra bien le trouver quelque part en
tout
plus, de toute manière.
Alors, tout à fait. Alors ça, c'est clair, oui. Cet argent, il faudra bien le trouver quelque part. Mais pour nous, il est juste que les gens ne soient pas étranglés par leur prime d'assurance maladie. Donc il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, pour certaines familles, l'assurance maladie, ça représente plus que le loyer.
Bien sûr.
Donc, on est dans une situation où, finalement, les gens ils sont complètement étranglés par cette situation. Et puis, du coup, ils doivent demander aussi d'autres aides sociales, ou ils vivent dans la pauvreté. Ou bien
mais ça, la question de la justice, c'est tout à fait compréhensible. Mais du point de vue de la justice, est-ce que c'est juste de payer autant? C'est compréhensible. Mais toujours la question du financement, comment on fait pour sortir montant, 400 millions
pour
ou peut-être
nous,
moins.
La réponse, elle est très claire. On fait ça sur le budget du canton de Genève.
Mais là, on coupe où?
Mais est-ce qu'on a besoin de couper? Regardez les résultats aujourd'hui du canton de Genève. Depuis tous les ans, on nous annonce des budgets catastrophiques et puis à l'arrivée, on fait des bonnies substantielles, très substantielles.
220, 229 millions, je crois, voilà. Ça fait 222 millions.
Par
cette
ailleurs,
année, ouais.
Au niveau de la Confédération, on a aussi des bonis extrêmement substantiels. Et là, on considère que ça c'est pour le volet fédéral, mais elle prévoit la même chose, hein, le même principe. On considère que l'argent qui n'est pas utilisé dans le budget de la Confédération devrait être investi pour soulager les familles et la classe moyenne. Et ça, c'est la même chose que ce soit dans le budget cantonal ou dans le budget fédéral, c'est une question de priorité. On voit qu'aujourd'hui, on arrive à dégager des bonis. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Si on en fait simplement pour faire des cadeaux aux multinationales et aux entreprises locales, pour nous, ce n'est pas une bonne solution. Cet argent, ces bonis, ils doivent aller à la classe moyenne, ils doivent aller aux familles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on attaque sur l'assurance.
Mais les années où il n'y a pas de bonis ? Parce que ça, c'est, on a de la chance cette année, ça fait quelques années qu'on a eu de la chance pour plusieurs raisons et des fois des raisons qui sont totalement différentes, mais on va dire que là, c'est conjoncturel. Si l'année prochaine, y a pas, la conjoncture est mauvaise et qu'en plus, les recettes fiscales sont moins bonnes qu'espérées, là, on finance comment votre initiative ?
Mais on la finance comme on finance d'autres prestations, le chômage, par exemple. Si demain, la conjoncture est mauvaise et que l'économie va mal et que le chômage augmente, eh bien, on ne va pas arrêter de donner des allocations chômage aux chômeurs sous prétexte que le budget
est équilibré. Oui, ça, c'est la loi. Il y a pas, c'est pas
ben
possible.
Voilà. Et ben nous, ce qu'on propose, c'est de mettre ce principe-là dans la loi. Et puis, on pense qu'assez rapidement, ça va mettre la pression sur les assurances maladie. Ça va inciter les cantons à refuser les systèmes qu'ils ont mis en place aujourd'hui.
Mais comment ? Pourquoi ? Pourquoi ça va, faire ça auprès des assureurs ? Pourquoi
Parce
ils changeraient leur façon de penser ?
Les assureurs ?
Oui.
Les assureurs, ils changeront leur façon de penser le jour où un Parlement leur dira de changer leur façon de penser. Ça, c'est clair, parce que les règles du jeu, elles sont fixées dans la loi fédérale.
Oui.
Et moi, je vous assure que le jour où le budget de la Confédération doit financer des hausses absolument inadmissibles et insupportables pour les budgets des ménages que les assurances maladie nous imposent, eh bien, il y en aura une.
Mais ça, c'est de la politique fiction, Caroline Cast. Aujourd'hui, il n'y a pas de majorité, vous n'aurez jamais une majorité pour ça. La droite vient de s'écharper.
On n'a pas de majorité parce que la droite, ça lui est égal, puisque
bien
c'est
sûr.
Pas sur son budget.
Enfin, en tout cas, pour l'instant, la droite a failli augmenter encore, a failli augmenter, proposer une augmentation de la franchise de base à 350 francs au lieu de 300 francs. Visiblement, c'est pas son agenda de proposer ce genre de réforme.
Non, donc, mais le jour où ça impactera le budget de la Confédération, ça deviendra son agenda.
Oui, mais pour pouvoir impacter le budget de la Confédération, il faut que vos idées puissent trouver une majorité
c'est pour
au
ça
Parlement
qu'on passe
fédéral.
Par c'est pour ça qu'on passe par la démocratie directe. Mm-hmm. Parce que c'est tout à fait juste, on sait qu'aujourd'hui...
Ce qu'a fait le canton de Vaud, d'ailleurs.
Ce qu'a fait le canton de Vaud. Et là, c'était un lien avec RFFA, d'ailleurs, il l'a passé dans ce cadre-là. Ils ont lancé l'initiative, et puis, ça a été intégré dans la réforme RFFA. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait à Genève, et c'est ce qu'on fait demain, ou en ce moment, je dirais, au niveau de la Confédération, puisqu'on récolte les signatures en ce moment au niveau de l'initiative fédérale. C'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas de majorité parlementaire, qu'on sait très bien que si c'est pas le peuple qui dit « oui, on veut changer le système n'y changera pas ». Et c'est pour ça qu'on passe par la démocratie directe. C'est une chance qu'on a en Suisse de pouvoir changer les règles du jeu avec le peuple quand le Parlement fait la sourde oreille.
Mais vous avez quand même un conseiller fédéral, Alain Berset, qui est de votre parti, qui est en charge de l'assurance maladie au niveau fédéral, la Confédération.
Oui, il est soumis à la démocratie directe comme tout le monde.
Oui, d'accord. Mais donc, il n'y a pas aussi un moyen de faire en sorte qu'il soit un peu plus combatif sur ce sujet ?
Ça me paraît difficile puisqu'il est quand même très minoritaire dans le gouvernement fédéral. Et on a pu voir que, en tant que minoritaire, il est contraint aux décisions du collège.
Bien
c'est
sûr.
Le jeu dans tous les gouvernements à tous les étages. Hein. C'est également le jeu au niveau de la commune. Moi, je siège dans un exécutif. Il se trouve que moi, je fais partie de la majorité de cet exécutif-là. Mais lorsqu'on siège dans un exécutif collégial et qu'on est minorisé, eh bien, on doit se battre à l'interne, mais une fois que la position elle est prise...
Bien sûr, mais tous les conseillers fédéraux, ou du moins beaucoup de conseillers fédéraux, se permettent toujours des petites remarques acerbes auprès de leurs collègues de gouvernement pour leur faire comprendre que la situation ne va pas bien. Pourquoi Alain Berset, il est toujours aussi muet sur ces questions-là et pourquoi il est toujours aussi... il respecte autant la collégialité et qu'il ne va pas prendre des positions un petit peu iconoclastes pour aider justement vos électeurs ?
Oh, je pense que ça, il faut lui poser la question directement. Chacun son style.
Alors, on lui posera la question, on essaiera de l'inviter.
J'ai pas la réputation d'être particulièrement bon élève, souple et docile. Peut-être lui plus.
Très bien. En tout cas, je vous remercie pour cette première partie. On va revenir dans quelques minutes après de nouveau une petite page de pub musicale. Et puis, à tout de suite.
Ne bougez pas, dans un instant, retour à la musique.
Nous sommes de retour dans Parole publique, je suis accompagné de Caroline Cast, ancienne présidente du Parti Socialiste Genevois et conseillère administrative en ville d'Aunay depuis 11 ans maintenant. Caroline Cast, vous aviez été élue l'an dernier députée au Grand Conseil à Genève et vous aviez demandé à votre parti une dérogation accompagnée de votre collègue en ville de Genève, Sandrine Salerno. Cette dérogation, vous ne l'avez pas obtenue. Et vous avez donc renoncé à siéger au Grand Conseil et maintenu votre mandat en ville d'Aunay. Avec le recul, les mois ont passé, comment vous analysez ce refus ? Est-ce que vous êtes encore amer ? Enfin, est-ce que vous avez été amer de ce rejet ? Est-ce que pour vous, ça a été un tournant dans votre carrière ?
Non, je ne pense pas que ça ait été un tournant dans ma carrière. J'étais fâchée de cette décision parce qu'elle ne me semblait pas tenir compte des intérêts objectifs du parti. Il faut savoir que ce soit pour Sandrine Salerno ou moi-même d'ailleurs, nous avons toutes les deux été très bien élues. Nous étions toutes les deux en fin de mandat. On n'entendait pas.
Et vous êtes toutes les deux des figures du parti Genevois malgré tout.
Je pense, oui. Mm-hmm. Et on n'entendait pas cumuler éternellement ces deux fonctions. C'était pas du tout le but. Le but, c'était d'obtenir une période de transition, ce qu'on peut appeler dans le domaine professionnel un tuilage. Mm-hmm. Donc, on fait un peu les deux pendant une période de passage de témoin. Et je regrette cette décision. Puis cette décision, surtout, elle a mis en exergue, et d'ailleurs on a changé nos statuts depuis, elle met en exergue le fait que finalement, au Parti Socialiste, on ne faisait pas vraiment les choses dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on portait des gens sur la liste, mm-hmm.
Ensuite on décide...
les portait dans la campagne, ouais. On profitait aussi de leur notoriété, enfin je veux dire, c'est le jeu, hein.
il n'y a pas de
mal à ça, mais on utilisait de leur expérience, leur notoriété pour porter des dossiers, pour porter la liste, et puis après on disait, ah on est d'accord ou pas que vous restiez. Et ça ne me paraît pas être sain dans un bon fonctionnement de parti. Je pense que la question aurait dû être tranchée avant de nous mettre sur la liste. Et bien sûr, on est toujours plus intelligent après.
Bien sûr, oui.
Et le problème, c'est que du coup, on a changé nos statuts. Mm-hmm. Et cette question, si elle doit se reposer un jour, elle sera posée au moment où on met la personne sur la liste.
Donc en amont, en fait.
En amont.
Pas d'espoir déçu, quoi.
Voilà, pas d'espoir déçu, pas de demander des implications à des gens, de travailler dans un sens, et puis après de leur dire, finalement, c'était sympa, mais on a d'autres plans pour vous, quoi.
Mais ce que j'ai entendu, alors peut-être que c'était faux, c'est des bruits de couloir que j'ai entendus au Parti Socialiste, finalement, certains ont l'impression qu'on accorde plus facilement des dérogations aux hommes dans votre parti. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Parce qu'on sait que Thierry Apotello avait obtenu une dérogation à Vernier pour siéger une quatrième législature au conseil administratif. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une analyse que vous trouvez juste ou c'est le hasard ?
Alors le parallélisme avec Thierry Apotello, il n'est pas bon parce mm-hmm. que ça c'est une décision de sa section.
Oui, puis en plus c'est pas du tout lié à un double mandat.
C'est pas lié à un double mandat.
Bien sûr.
Et c'est pas les mêmes personnes qui ont pris la décision. Mm-hmm. Par contre, il y a eu un précédent pour Manuel Tornard.
Oui.
Et puis il y a eu un précédent pour Alberto Velasco entre la Constituante et le Grand Conseil. Mm-hmm. Et puis il y a eu un précédent très court aussi pour Cyril Mizrahi entre le Grand Conseil et le Conseil municipal. Mmh. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que effectivement,
ces trois personnes,
ces trois hommes,
ouais, ils ont les trois obtenu la dérogation.
Manuel Tornard, je dirais, c'est le seul qui est vraiment comparable puisque c'est ouais. exactement la même situation que nous. Hein. C'était mmh. Grand Conseil et Conseil administratif en fin de mandat. Donc mmh. Là-dessus, c'est vraiment comparable. Moi, je ne sais pas si on doit y voir quelque chose de sexiste dans cette décision. Je pense que c'est vrai de dire que les dérogations qui ont été obtenues, elles ont été obtenues à des hommes, et c'était la première fois que des femmes la demandaient, et que les femmes ne l'ont pas obtenue. Ça, c'est une réalité, c'est des faits. Est-ce qu'on doit en tirer une conclusion à ça ? Je ne sais pas. Moi, je pense surtout que la conclusion qu'on doit en tirer, c'est celle qu'on a tirée.
Le changement des statuts.
C'est qu'il ne faut pas faire les choses dans cet ordre-là.
Oui.
Il faut les faire dans le bon ordre, en respect des gens et des électeurs. Parce que je peux vous dire, j'ai eu pas mal d'échos de personnes qui m'ont dit, mais moi, j'ai juste l'impression que... des gens qui m'ont dit, moi je suis pas de gauche, mais j'apprécie votre action, j'apprécie l'action de Sandrine Salerno, je vous ai rajouté sur ma liste, j'ai donné des voix au Parti Socialiste parce que c'était vous, et donc j'ai l'impression qu'on m'a roulé dans la farine en tant qu'électeur.
Mais d'ailleurs, cette question peut se poser aussi pour ceux qui sont au Conseil d'État, qui sont candidats au Conseil d'État, mais qui se présentent quand même au Grand Conseil, dont on sait que probablement ils vont être élus. Enfin, sauf cataclysme, et qui tirent la liste au Grand Conseil, mais ne n'y siégeront jamais. C'est un peu le...
C'est
ce sentiment d'être un peu... d'attirer des voix, vous dites.
Bon, ça, c'est le système genevois qui veut ça. C'est pas lié au Parti Socialiste.
Non, bien sûr, pas du tout.
Contrairement à la question du cumul des mandats, parce qu'il y a plusieurs autres conseillers administratifs dans d'autres partis qui continuent à faire les deux. Hein.
Oui, on pourrait citer, sauf erreur, Rémi Pagani.
Alors Rémi Pagani, Yvan Rochat pour ce qui est des Verts, et d'ensemble à gauche. Et puis pour la droite, il y en a depuis
fort Guillaume Barazzone qui siège aussi au Conseil national en étant conseiller administratif.
Par exemple, mais aussi par exemple Béatrice de Candolle qui est élue dans cette région et qui depuis nombreuses années est à la fois conseillère administrative et députée. On peut penser à Fabienne Montbaron, qui est conseillère administrative à Plan-les-Ouates. J'en oublie évidemment certainement.
Mais il n'empêche que le Parti socialiste, par principe, est défavorable au double mandat et il faut obtenir une dérogation. Finalement, est-ce qu'il n'a pas simplement respecté ses principes de base qui sont il n'y a pas de double mandat et point barre?
Ben, j'ai envie de dire non, puisqu'il y a une dérogation qui est possible.
Oui.
Donc, à ce moment-là, cette position serait cohérente. Si on disait qu'il n'y a aucune dérogation possible, et si quelqu'un se met sur la liste, il prend l'engagement de lâcher son précédent mandat. Je serais en désaccord avec l'idée de dire qu'il peut faire la campagne, puis si élu, il doit choisir. Parce qu'à ce moment-là, alors on est de nouveau dans la tromperie de l'électeur. Moi, je pourrais entendre une situation qui dit aucune dérogation possible. Et puis, on demanderait à la personne de s'engager, si elle veut être sur la liste, à lâcher le mandat préexistant. Maintenant, ben voilà, ce n'est pas exactement la solution qu'on a toujours défendue. On a défendu que ça ne devait pas être sur du long terme, que c'était
des cas particuliers.
Acceptable uniquement dans des périodes de transition, sur des durées courtes, et puis sur des questions comme ça à revoir, quoi, à examiner au cas par cas.
Tout à fait. Et vous, du coup, la suite de votre engagement politique, parce que l'année prochaine, il y a les élections municipales, vous avez demandé une dérogation pour faire un mandat supplémentaire ?
Oui, alors en fait, ce n'est pas exactement que j'ai demandé une dérogation pour faire un mandat supplémentaire, c'est que lorsque la dérogation pour le cumul des mandats ne m'a pas été accordée, je suis retournée dans ma section et on a discuté ensemble. Finalement, est-ce que la bonne solution, c'était d'organiser une partielle au conseil administratif ? Ou bien de lâcher le mandat de député. Et moi, j'étais tout à fait prête à privilégier la solution qui était d'organiser une partielle au conseil administratif, à condition que, en gros, la personne qui voulait prendre ma relève en 2020 était prête
à le faire tout de suite
en 2019.
Oui.
Et assez rapidement, on s'est heurté au problème qu'il n'y avait pas de personne qui était prête à prendre la relève en 2020. Donc, s'il y avait personne qui était prêt à prendre en 2019 parce que personne qui était prêt à en prendre en 2020, eh bien, à ce moment-là, je leur ai dit, bah, écoutez, si personne n'est prêt à la prendre maintenant ou en 2020, je veux bien lâcher le Grand Conseil et je me représente en 2020.
Donc, vous représentez en 2020.
Donc, je me représente en 2020.
D'accord. Oui. Mais le mandat de député vous intéressait plus maintenant que la ville d'Aunay ? Pas dans un sens d'opposition, je veux pas, c'est pas non, la petite phrase, mais...
C'est pas qui m'intéressait plus, c'est que ça me semblait plus logique, effectivement.
C'était une évolution dans votre.
Oui. À Aunay, de passer la main à Aunay, et puis d'aller au Grand Conseil. Même si, à titre tout à fait personnel, je vous avoue que je trouve que le mandat d'exécutif communal est plus intéressant que le mandat de député. Mais c'est clair que je pense que c'est juste qu'on passe la main après 3 mandats. Surtout si on a des gens prêts à reprendre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça a été la problématique pour Thierry Apotello aussi, et c'est la problématique pour moi aujourd'hui.
Mais à Aunay, vous avez une relève ou...
Alors, on n'en avait pas, et on l'a construit.
D'accord.
Et on l'a construit, et je pense qu'on aura vraiment des personnes prêtes à prendre la suite à l'issue de
mon mandat. Ça, c'est effectivement une question que se posent les communes aujourd'hui à Genève, même, je crois, dans le reste de la Suisse, c'est la relève du personnel politique.
Oui.
Et pour une ville, Aunay, qui est quand même une ville assez grande, c'est si difficile que ça de trouver des gens qui sont prêts à s'engager
C'est assez difficile parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, dans une commune comme Aunay, mais c'est valable pour toutes les grandes communes du canton suburbaine, c'est très difficile de pouvoir faire cette activité en ayant un emploi à côté.
Oui, parce que c'est combien de pourcents la ville d'Aunay ?
Officiel, il n'y a pas.
Officieux, mais alors ?
Officieux, en fait... pour moi, ça représente un 70%.
D'accord.
Donc, il est clair que quand vous commencez... Alors, peut-être maintenant, je suis peut-être plutôt à 70, et quand j'ai commencé, j'étais peut-être plutôt à 80. On est dans cet ordre de grandeur-là. Si vous avez la chance de ne pas avoir besoin d'avoir un autre emploi à côté, vous pouvez le faire à 100%, vous ne vous ennuyez pas, hein, il n'y a pas de problème. Mais disons, pour faire bien le travail...
Ça dépend aussi du revenu, en fait.
Ce qu'il y a, Il faut au moins y consacrer, je dirais bien, au minimum 3 jours dans la semaine. Et puis, c'est ça qui est difficile. C'est que même si le revenu est très correct, hein, donc moi je suis partisane de la transparence totale, donc je gagne 6800 francs net par mois, 12 fois, il n'y a pas de 13e. Donc vous pouvez trouver mes fiches de salaire sur ma page Facebook, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, je pense qu'on peut vivre avec ça, il n'y a aucun problème, hein, je ne me plains pas du tout. Mais par contre, il faut quand même se rendre compte...
Après, ça dépend de la typologie du ménage.
Ça dépend de la typologie du ménage, bien entendu. Et puis, ça dépend aussi de l'âge.
Oui.
Dans le sens où il faut quand même se rendre compte que pour certaines personnes, bah, ça veut dire abandonner son emploi, parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas forcément un employeur qui est d'accord qu'on réduise son taux d'activité à 30 ou à 40%. Hein. Mmh. Et on a peut-être aussi d'autres obligations, familiales notamment. Et donc, ça veut dire abandonner son emploi et se mettre quand même dans une situation qui peut être relativement périlleuse à l'issue de ces mandats. Donc, je pense qu'il faut en tenir compte.
Ouais, on va continuer cette discussion sur l'engagement politique. On en reparle après une courte pause musicale.
Get me wondering, yeah, if I always
Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous sommes dans Parole publique. Je suis en compagnie de Caroline Cast, ancienne présidente du Parti socialiste Genevois et conseillère administrative en ville d'Aunay. Caroline Cast, nous discutions de l'engagement politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que l'engagement politique, il est favorisé pour les femmes ?
Non, mais il n'est pas favorisé pour beaucoup de monde, mais je dirais encore moins pour les femmes.
Qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet ?
Alors, on peut essayer de réfléchir déjà à des horaires différents. Aujourd'hui, en Suisse, on vit, et plus particulièrement à Genève, que je connais mieux, on vit dans un système politique qui est un système de milices. C'est très bien, le système de milices. C'est véritablement beaucoup mieux, à mon avis, que des systèmes de professionnalisation des élus. Mais il faut quand même se rendre compte que ça a aussi ses limites. Et notamment, une des limites, c'est que la plupart du temps, les séances politiques, elles ont lieu après les heures de travail. Et ça, très clairement, lorsque vous avez la responsabilité d'une famille, et on sait aujourd'hui que les tâches dites de care, donc les tâches ménagères, les tâches liées aux enfants, et comme ça, sont encore beaucoup plus portées par les femmes que par les hommes, même s'il y a bien entendu des contre-exemples, eh bien ça devient quasiment incompatible. Nombre de femmes que je connais ont renoncé à un engagement politique parce qu'elles considéraient qu'elles ne pouvaient pas concilier ça tout en
assurant la présence nécessaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir améliorer cette situation qui est problématique ?
À mon avis, déjà, envisager qu'on doit siéger en journée. Et ça impliquera évidemment des impacts.
Il y a des gens qui ne pourront pas siéger en journée.
Alors, il faudrait peut-être avoir un système de type indemnisation des employeurs,
ouais.
Comme on peut l'avoir pour l'armée ou pour la maternité.
Avec un fonds dédié
avec
pour
un
ça
fonds ouais. dédié qui permet à l'employeur de supporter finalement le manque de son
parce que justement c'est aussi
une journée par semaine.
C'est aussi une des autres choses qu'on voit au niveau des parlements, c'est que justement c'est souvent une catégorie de profession qui se retrouve élue parce qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement pas s'absenter la durée nécessaire.
Bien sûr.
Avec
c'est
un mandat.
Des professions libérales
bien
qui
sûr,
sont
ouais.
libres dans l'organisation de leurs horaires.
Ou des gens qui ont leur entreprise.
Ou des gens qui sont effectivement leur propre patron.
Et qui perdent de l'argent pour le faire, j'en
oui.
connais.
Donc, oui, tout à fait. Non, c'est une réalité. Je pense au milieu des avocats que je connais bien, puisque c'est ma formation. Lorsqu'un collègue, que ce soit député d'ailleurs ou conseiller administratif, prend cette fonction, eh bien, il réduit le temps qu'il consacre à son étude, donc il réduit d'autant son revenu. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à trouver, mais aujourd'hui, on ne l'a pas trouvé. Ou en tout cas, il n'y a pas de majorité pour le mettre en place. Et donc, très clairement, lorsque vous avez des enfants en bas âge, ou même en âge, je dirais, de scolarité, encore assez petit, disons, vous devez être là, entre guillemets, à la sortie de l'école, et puis être là pour faire les devoirs avec eux, être là pour les accueillir, éventuellement, quand ils sont un peu plus grands, les amener au foot, à l'équitation, que sais-je, ou à la musique. Et donc, la tranche horaire, qui est justement l'after work, hein, puisque c'est le nom de l'émission,
oui.
le 18h, 22h, on va dire, eh ben, c'est le moment que vous consacrez à votre famille
bien
pour
sûr.
Travailler. Et donc, forcément, eh bien, pour beaucoup de personnes, et notamment plus particulièrement de femmes, c'est juste pas possible de manger cette tranche horaire-là. Et donc, il y a un moment donné, il faut choisir. Et j'en connais effectivement beaucoup qui ont renoncé soit à un mandat, soit même à un engagement politique, simplement, un engagement aussi fort que peut être celui d'un parti politique, pour cette raison-là.
Et pour rester sur cette thématique, il y a au Parti socialiste neuchâtelois une proposition qui a émergé au Grand Conseil, qui est de proposer, en fait, pour une plus grande représentativité des femmes, trois législatures où il y aurait des élections séparées hommes et femmes, pour retrouver un Parlement totalement paritaire. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition, elle est assez iconoclaste. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une bonne idée ?
Je pense que c'est une idée à explorer, je la trouve très intéressante. C'est une sorte de quota, en fait.
Oui.
C'est une des manières dont on peut mettre en place les quotas. Les pays qui ont mis en place des quotas, finalement, ont des résultats extrêmement satisfaisants, puisque, effectivement, quelques législatures... les instances deviennent paritaires et même des fois les quotas s'appliquent à l'inverse
ouais,
aux
d'accord.
hommes après. Donc on a vu le cas dans les pays scandinaves qui ont mis des quotas en place depuis très longtemps et il y a eu quelques élections où finalement c'est les hommes qui ont bénéficié du système de quotas et certaines femmes qui ont laissé leur place à certains hommes alors qu'elles avaient obtenu une meilleure élection. Moi, je trouve que ces systèmes sont très intéressants. L'idée du double parlement, enfin, je ne sais pas exactement.
Oui, c'est juste deux élections qui sont séparées formellement.
Oui, donc il y a une liste femme, une liste homme, et puis
voilà, c'est ça. Et on ne peut élire que les uns et que les autres.
Ouais.
Mais justement sur cette question, vous qui avez présidé le Parti socialiste genevois pendant 4 ans, si demain ça passait à Genève, imaginons, politique fiction, est-ce que vous auriez eu la relève, enfin le personnel politique féminin suffisant pour pouvoir proposer une liste intéressante au Grand Conseil? Pour avoir une élection que de femmes, pour représenter la moitié du Grand Conseil, sachant que les socialistes ne représentent pas la moitié du Grand Conseil, mais dans l'idée que...
Alors oui, je pense. Je pense. Parce que moi, je crois beaucoup que lorsque on est mis au pied du mur, on voit les maçons, ou les maçonnes. Et en l'occurrence, chaque fois qu'il y a eu comme ça des règles qui ont changé les règles du jeu, la société civile, parce que les partis, finalement, nous sommes la société civile, nous sommes des associations... arrive à réagir extrêmement vivement. Aujourd'hui, moi je connais plein de femmes qui auraient tout à fait la capacité de le faire, mais parce que aussi il y a des hommes qui ont plus de disponibilité, parce qu'elles ont cette crainte de ne pas réussir à conjuguer finalement leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie politique, elles y renoncent d'elles-mêmes. Mais moi, je n'ai pas de problème à me dire que le Parti socialiste, si vraiment il doit mettre 50%, comme tous les autres partis d'ailleurs, 50% de ses candidats qui sont d'un sexe et 50% de l'autre, saura faire le nécessaire pour présenter deux belles listes ou une belle liste paritaire, finalement, peu importe.
Mais je crois qu'à droite, justement...
Contraint par la loi.
Oui, mais je crois qu'à droite, justement, dans les partis plutôt de droite, il y a une crainte par rapport à ça. Ils donnent l'impression, c'est ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils trouvent moins facilement du personnel politique féminin de leur côté que du côté de la gauche. Est-ce que vous auriez une explication logique à ça?
Oui, j'ai une explication logique, c'est que les partis de gauche font beaucoup plus pour encourager les femmes, et donc lorsqu'on les encourage, parce que c'était pas spontané chez elles, elles ont et des compétences et des qualités à mettre en œuvre et des belles personnes qui sont capables de porter les idées du Parti socialiste et de tous les partis en fait. Et je suis sûre qu'à droite, s'ils se fixaient les mêmes règles que nous nous fixons, ils trouveraient ce personnel-là.
Très bien. Une dernière question avant de rendre l'antenne. Caroline Cast, nous sommes l'année de la grève des femmes. Le 14 juin, si je ne dis pas de bêtises.
C'est juste.
Est-ce que vous avez un message à faire passer aux femmes qui vont se mobiliser cette journée-là? Quel est votre message finalement pour les droits des femmes aujourd'hui, en 2019?
Eh bien, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'on parlait sur le cadrage, c'est que, et les lois, et l'évolution des lois, c'est que fondamentalement, on est dans un pays très conservateur dans sa manière de fonctionner. Et il faut le bousculer un petit peu pour que des pas se fassent en avant. Et je pense qu'organiser une mobilisation un jour au niveau suisse, où véritablement on marque cette différence et on met le projecteur sur la situation des femmes, est un bon moyen de véritablement obtenir des avancées significatives.
Et vous espérez une forte mobilisation ?
Oui, j'espère une forte mobilisation. Je rappelle, parce que je pense que c'est important, que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution, qu'aucun employeur ne peut envoyer des sanctions face aux grévistes féminines. Et j'espère qu'il y aura véritablement beaucoup de femmes qui se mettront en grève directement ou symboliquement ce jour-là.
Et on vous le souhaite. Je vous remercie d'être venu et on va sonner le top horaire, sauf erreur, tout bientôt. Donc je rends la parole à Alex.